carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Zhao Wuqi, estampes et livres illustrés. Une exposition de tout l'œuvre gravée à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, du 3 juin au 24 août 2008. À la suite des magnifiques donations consenties par Zhao Wuqi et son épouse Françoise Marquet à la Bibliothèque nationale de France en 1918 et en 2007, la BNF organise une exposition consacrée à plus de 60 ans de création graphique de l'artiste franco-chinois. Et depuis décembre 2002, Zhao Wuqi est membre de l'Académie des Beaux-Arts dans la section de peinture. C'est donc avec un vif intérêt que Canal Académie dédie son antenne à ce maître de l'art. Nous recevons dans nos studios les deux commissaires de cette exposition, Céline Chicha et Marie Mincieux-Chamonat. Madame Chicha, bonjour.
Bonjour madame.
Madame Mincieux-Chamonat, bonjour.
Bonjour.
Permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes Céline Chicha, conservateur au département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France. Et vous-même, Marie Mincieux-Chamonat, êtes conservateur à la réserve des livres rares à la même Bibliothèque nationale. Donc, deux départements de la BNF particulièrement concernés par l'œuvre gravée de Zhao Wuqi, puisque dans cette exposition, nous pouvons admirer les estampes et les livres illustrés par l'artiste. Si vous voulez bien, je vous propose dans un premier temps de bien préciser pour nos auditeurs la définition de ces deux supports. Céline Chicha, pourriez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est une estampe ?
En fait, une estampe, c'est une image imprimée au moyen de diverses techniques. Dans le cas de Zhao Wuqi, les images ont été imprimées au moyen des techniques de taille douce, c'est-à-dire que l'artiste a gravé sur le cuivre. Les images sont ensuite passées sous la presse pour être imprimées sur le papier. Il a également travaillé en lithographie et un petit peu en sérigraphie, qui sont des techniques à plat. Ce sont donc des multiples, hein, puisque les images peuvent être imprimées en plusieurs exemplaires, mais ce sont des œuvres d'art puisque elles ont été créées par l'artiste. On parle d'original multiple dans le cas d'une estampe.
Et généralement, il y a beaucoup d'exemplaires par œuvre.
C'est tout à fait variable d'une pièce à l'autre. Les techniques de l'estampe permettent d'imprimer un très grand nombre d'exemplaires. Les éditeurs, généralement, ont choisi de limiter ce nombre pour des raisons commerciales, ce qui fait que les estampes sont, dans le cadre de Zhao Wuqi, généralement limitées à entre 50 et 100 exemplaires.
Ah oui, oui. Et il y en a toujours dans les commerces aujourd'hui ?
On en trouve encore chez certains marchands. On en trouve également en vente publique assez régulièrement.
Ah oui, bonne nouvelle. On va se tenir informés.
Voilà.
Je me tourne maintenant vers vous, Marie Mincieux-Chamonat. Les livres illustrés sont de votre domaine. Nous trouvons ici quelques vraiment superbes exemplaires qui reposent presque toujours sur une création littéraire, n'est-ce pas ? Alors avant de détailler les œuvres, peut-on parler d'une spécificité des livres illustrés par Zhao Wuqi ?
Non, pas vraiment une spécificité. Hein. Les livres illustrés sont des ouvrages de bibliophilie qui sont tirés à très peu d'exemplaires, hein, une centaine d'exemplaires au maximum, et qui allient un texte original d'un poète ou d'un écrivain et une gravure originale réalisée spécialement pour le livre.
Oui.
Et ce type de livre demande la collaboration à la fois de l'éditeur, de l'auteur, de l'imprimeur, typographe et de l'artiste. Donc ce sont des ouvrages de très grande qualité qui circulent plutôt dans les galeries et qui sont collectionnés.
Oui, voilà. Nous verrons donc ultérieurement les poètes ou écrivains privilégiés qui ont eu l'honneur d'être illustrés, enfin dont certaines œuvres ont été illustrées par Zhao Wuqi, et Zhao Wuqi qui a eu l'honneur d'illustrer aussi les René Char et autres poètes que nous verrons donc tout à l'heure. Alors j'aimerais quand même ici soulever un point où, si vous voulez, dissiper un a priori par rapport aux grandes toiles qu'on connaît de Zhao Wuqi. Les notions même d'estampes ou de livres illustrés peuvent paraître quelque peu austères à certains visiteurs sans l'avoir vu. Et cependant, on se retrouve donc dans ces salles de la BNF devant des œuvres vraiment aux couleurs éclatantes et bien sûr d'une extrême subtilité de traits. Tous les admirateurs de cet artiste le savent bien. Et que dire de ce travail d'estampes, de cette technique ô combien difficile et si délicate ? Alors, Céline Chicha ou Marie-Mathieu Chamonard?
Oui, je peux peut-être dire quelques mots en fait.
Madame Chicha.
C'est vrai qu'on connaît Zabouki avant tout comme un peintre. Et c'est un artiste qui aborde l'estampe en tant que peintre. Et donc il va chercher à transposer en gravure et en lithographie ses recherches picturales. Et il va essayer de mettre au point des techniques qui vont lui permettre de faire cela. Ce qu'il a apporté à l'art de l'estampe, c'est véritablement ses talents de coloriste, qui suppose en gravure un grand savoir-faire, puisqu'en fait, chaque planche nécessite la superposition de plusieurs planches. Chaque planche résulte en fait de la superposition de plusieurs planches pour parvenir au résultat souhaité. Donc c'est véritablement...
De plusieurs couleurs, vous voulez dire.
Voilà, de plusieurs couleurs, sachant que sur chaque planche est imprimée une ou deux couleurs. Donc c'est un travail véritablement qui suppose un savoir-faire technique extrêmement savant. Et pour ce faire, Zabouki était aidé par des artisans de renom dans les ateliers d'impression. On peut citer notamment Robert Frélo de l'atelier La Courrière Frélo, qui l'a beaucoup accompagné dans sa création de taille douce. On peut citer également les ateliers Bellini, Cromlinck, Dutroux, qui ont travaillé aussi avec oui. Zabouki.
Et on peut voir d'ailleurs dans l'exposition des plaques de cuivre. Hein,
oui.
Où on peut suivre l'évolution de plusieurs étapes de superposition des couleurs.
Oui, cela nous a semblé intéressant effectivement.
Absolument,
de montrer ce travail au public. Parce que lorsque l'on observe les œuvres de Zabouki, on a l'impression qu'elles sont très spontanées. Or, en fait, il n'en est rien. Enfin, Zabouki est un artiste qui travaille de manière assez lente, très réfléchie. Il détruit beaucoup ses œuvres. Et il travaille de cette manière-là en peinture, mais également en gravure. Il fait beaucoup d'essais préparatoires avant de parvenir au résultat souhaité. Et puis c'est vrai que les techniques de l'estampe ne permettent pas une aussi grande spontanéité, surtout l'estampe en couleur, du fait justement de cette superposition de plusieurs matrices pour parvenir à l'estampe souhaitée.
Et on peut peut-être mentionner ici un fait tout à fait original. Contrairement à beaucoup d'autres artistes qui ont travaillé à partir de la gravure, ils ont évolué vers une peinture. Zhao Wuqi, lui, il fait l'inverse. Il passe souvent de la peinture à la gravure. Vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, c'est vrai que son œuvre imprimée s'inscrit pleinement dans sa création. Depuis qu'il a abordé la gravure en 1949, soit un an après son arrivée en France, bien souvent, il s'inspire directement de dessins ou de toiles réalisées préalablement, qu'il interprète lui-même en gravure. On parle à ce moment-là d'estampes d'interprétation. Ce ne sont pas des copies, ce sont des interprétations, puisque les techniques d'estampes ne permettent pas de faire exactement la même chose qu'en peinture. Parfois, elles permettent d'aller plus loin d'un point de vue plastique, et c'est ce qui va beaucoup intéresser Zabouki, qui aborde aussi l'estampe comme un champ d'expérimentation plastique. Et bien souvent, effectivement, on trouve à l'origine d'une estampe une peinture ou un dessin. Parfois, l'estampe est très proche de la peinture, parfois elle s'en éloigne. Dans les dernières années, par exemple, il a beaucoup pratiqué l'encre de Chine, et souvent il a interprété ces encres de Chine, donc qui sont en noir et blanc, dans des estampes qui, elles, sont en couleur. Donc il y a véritablement un apport de l'œuvre imprimée par rapport aux œuvres uniques.
Ouais.
Et on a justement souhaité montrer dans l'exposition à plusieurs reprises ces va-et-vient entre la peinture, le dessin et l'estampe.
Oui, on est vraiment impressionné devant cet univers si varié et si coloré. Je me répète,
oui,
c'est vraiment impressionnant.
Je voudrais aussi ajouter que les estampes de Zabouki sont finalement de grande taille, sont de grand format. C'est vrai que les visiteurs étaient habitués à voir les grandes toiles de Zabouki et parfois certains s'attendaient à ce qu'il y ait des gravures de cette taille. Et évidemment, ce n'est pas possible puisque derrière la gravure, il y a les matrices, les cuivres ou les pierres lithographiques. Or, Zabouki va presque aux limites de l'estampe puisqu'il utilise des grandes plaques de cuivre et des grandes pierres. Mmh. Il joue avec les possibilités de la gravure au niveau de son travail sur l'espace, sur la surface.
Ici, on peut peut-être spécifier sa manière particulière d'utiliser l'aquatinte au sucre.
Oui, en effet, c'est une technique qui remonte au 19e siècle, qui a été utilisée à ce moment-là à titre expérimental par quelques artistes comme Merion, mais qui a surtout été utilisée au 20e XIXe siècle par un certain nombre d'artistes, parmi lesquels Picasso, Matisse.
Ah, oui.
Et Zawoki a adopté cette technique dans les années 50. Cette technique lui permettait en effet de dessiner sur le cuivre de la même manière qu'il dessinait sur une feuille de papier.
Avec un pinceau.
Avec un pinceau,
absolument.
Vous pouvez
expliquer à nos auditeurs comment fonctionne ce procédé ?
Oui, en fait, cela consiste à dessiner sur le cuivre avec un pinceau imbibé d'une solution qui comprend de l'encre et du sucre. Ensuite, on recouvre la plaque d'une couche de vernis. On plonge la plaque dans l'eau. Donc, sous l'effet de l'eau, le sucre va fondre et faire sauter le vernis à l'endroit où on a dessiné.
Oui.
Ensuite, la plaque s'encre de manière tout à fait traditionnelle et peut être imprimée.
C'est de les plonger d'abord dans un bain d'acide, non ? Avant.
Oui,
on fait une
on procède à une aquatinte pour obtenir des effets de surface.
Oui.
Mais le résultat final donne l'impression qu'il s'agit d'une encre, en fait.
D'une encre, hein.
Voilà.
D'une aquarelle.
Ouais, voilà, tout à fait.
Absolument magnifique. Peut-être on peut évoquer donc maintenant la vie de Zawoki et son parcours artistique. Alors je m'adresse à vous, Madame Mathieu Chamona.
Oui, alors Zawoki est né en 1920, le 1er février 1920, donc il a actuellement 88 ans. Et il est né à Pékin, dans une famille très ancienne qui remonte à la dynastie Song, une famille d'aristocrates. C'est une famille très aisée, hein, puisque son père était banquier à Shanghai. Et il a reçu une éducation très traditionnelle, de lettré. Notamment, il était formé par son grand-père, qui était un grand lettré de la Chine des mandarins, qui l'a initié à la poésie, à la calligraphie. Et du coup, c'est avec cette éducation, il a appris la poésie et l'écriture tout en même temps, finalement. Et c'est en 1935 qu'il décide finalement de devenir peintre, de se consacrer aux études de peinture. Et il va à l'école des beaux-arts de Hangzhou, qui était considérée à l'époque comme l'école la plus moderne en Chine.
Oui, même la ville, d'après son livre, qui est extrêmement intéressant, Autoportrait, que je conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs, internautes qui s'intéressent à Zawoki, de se le procurer, parce que vraiment, c'est écrit d'une manière extrêmement vivante et on suit tout son parcours. Ça s'appelle Autoportrait par Zawoki et sa femme, Françoise Marquet, paru chez Fayard. La ville où il fait donc ses études à l'Académie des Beaux-Arts.
À Hangzhou, dans la région des Lacs.
Ah oui, c'est une ville, paraît-il, magnifique.
Oui, qui était un grand lieu de tourisme, même à l'époque, hein, je crois, puisque c'est des paysages magnifiques avec des lacs, d'ailleurs, qui vont inspirer Zawoki. Zawoki, toute sa vie, a été fasciné par l'eau, le lac, et il vit actuellement dans une maison à Montparnasse où il y a un jardin. Pour lui, c'est très important d'avoir un jet d'eau, une fontaine. Etc.
Je vais en profiter pour lire juste quelques lignes que j'ai trouvées dans Autoportrait et qui caractérisent tellement bien le personnage de Zawoki derrière son œuvre. Quand il dit « Ce que je cherchais à voir, c'était l'espace, ses étirements et ses contorsions et l'infinie complexité d'un bleu dans le minuscule reflet d'une feuille sur l'eau. » Et je me posais toujours les mêmes questions. Comment représenter le vent ? Comment peindre le vide ? Et la lumière, sa clarté, sa pureté ? Je ne voulais pas représenter, mais juxtaposer des formes, les assembler pour qu'on y retrouvât le souffle de l'air sur le calme de l'eau. Alors c'est tout Zawoki en quelques lignes.
Oui, absolument. C'est une phrase qui peut tout à fait s'appliquer à l'ensemble de son œuvre.
Absolument, oui. Donc, alors, il fait des
études... Voilà, il va à 15 ans donc, dans cette école des Beaux-Arts de Hangzhou. Il reste 6 ans dans cette école. Et il suit une formation de peintre assez traditionnelle. Donc, il apprend la peinture chinoise traditionnelle, la calligraphie, mais aussi quelques rudiments de peinture à l'huile. Mais Zawoki est très déçu par cet enseignement, qu'il trouve assez académique. Et lui, secrètement, il rêve d'être Picasso, Matisse, Cézanne, enfin, tous les grands peintre de l'art moderne qui pouvait admirer à travers des reproductions.
Dans les magazines.
Dans les magazines comme Time ou Hapat Bazaar, ou à travers les cartes postales que son oncle, qui était un homme d'affaires, rapportait d'Europe.
Oui.
Donc c'était une famille quand même qui était ouverte vers l'Occident dès le début. Hein.
Oui, comme vous avez dit, très aisé, donc avec un certain niveau d'éducation, même avec un haut niveau d'éducation, j'imagine, Et son père, si j'ai bien compris, était assez ouvert au désir de son fils de devenir...
Son père était un homme très cultivé, qui était lui-même peintre amateur. Il a participé même à un concours de peinture, il a gagné un prix, enfin, c'est assez étonnant. Et c'était un homme qui aussi collectionnait des calligraphies anciennes, des bronzes, enfin un homme extrêmement cultivé. Et c'est finalement avec les encouragements de son père que Zavoki décide de devenir peintre et de parfaire sa formation en France en 1948. Au grand désespoir d'ailleurs de la mère de Zavoki, qui aurait bien voulu que Zavoki soit banquier.
Banquier, comme son père.
Voilà, exactement.
Un métier plus sûr, oui.
Voilà. Et donc en 1948, Zavoki décide d'aller en France pour 2 ans, parfaire sa formation de peintre. Il part... en France, avec sa jeune épouse, Lalanne, qui était musicienne.
Elle l'accompagnait.
Oui, elle l'accompagnait. Et le drame de sa vie, c'est que finalement, il va rester en France, il va faire carrière en France toute sa vie, et surtout qu'il ne pourra retourner voir sa famille que 25 ans après.
Et entre-temps, il y a eu des grands bouleversements en Chine.
Voilà.
On peut peut-être rapidement le survoler. Il y avait Chiang Kai-shek qui était... extrêmement dur comme régime. Et tout le monde espérait que le communisme allait libérer le pays de ce régime totalitaire.
Et puis il y a
quelques années après, ils sont un peu revenus.
Et puis il y a eu la révolution culturelle qui a été assez terrible pour la Chine et pour la famille de Zavoki en particulier. Il y avait le rejet du passé. La famille de Zavoki représentait finalement ce que la révolution culturelle abhorrait. Une grande famille bourgeoise, aisée, qui envoyait 2 de ses fils à l'étranger. Puisque le frère de Zavoki était ingénieur aux États-Unis et Zavoki est parti faire carrière en France.
Oui.
Et c'est vrai que le père de Zavoki a fini complètement misérable. Et je crois qu'il a fini balayeur de rue. Il a perdu toute sa collection de calligraphie, de bronze. Et par patriotisme, il n'a pas voulu quitter la Chine.
J'imagine que Zavoki, quand il a appris ça en France, il devait être évidemment énormément affecté. Et donc, il arrive en France
en 1948, il arrive en France.
48.
Il est arrivé le 1er avril 1948, le matin, et l'après-midi, il se précipite au Louvre pour enfin voir la peinture.
Le jour de son arrivée.
Voilà. Et il s'installe dans le quartier de Montparnasse, puisque pour lui, c'est le quartier des artistes.
Absolument, oui. Il avait tout de suite les idées bien ciblées. Et il s'intègre très rapidement dans le milieu des artistes. Et il rencontre rapidement
tous les collègues peintres. Voilà, tous les peintres qui ont entré dans l'histoire de la peinture.
Qui forment le Montparnasse mythique.
Il rencontre assez rapidement Viera da Silva, Hans Hartung, Pierre Soulages, qui est toujours son ami. Donc il ne connaissait pas du tout le français. Donc il a appris le français à l'Alliance française. Il ne parlait anglais, en fait.
Oui. Et donc, une rencontre absolument déterminante dans sa vie fut évidemment la rencontre avec Henri Michaux.
Ah oui, alors c'est une rencontre extraordinaire, puisqu'Henri Michaux, on peut le considérer comme le découvreur de Zavoki.
Manager ou sa bonne étoile.
Voilà, Henri Michaux rencontre Zavoki en 1949. C'est par un pur hasard, finalement, puisque Zavoki donc, s'initie aux différentes techniques de l'estampe. En 1949, notamment, il fait de la lithographie chez l'imprimeur des Jobert et il réalise une série de 8 lithographies en couleur, très personnelles, très délavées, des paysages assez naïfs, assez chagalliens. Et c'est un éditeur d'ouvrages de luxe, Robert Godet, qui prend l'initiative de montrer ses lithographies à Henri Michaux en pensant que ça pouvait l'intéresser. Et effectivement, Henri Michaux, qui ne connaissait pas du tout Zavoki, écrit 8 poèmes, qui sont 8 lectures très attentives de ses lithographies. Et à partir de cet ouvrage, Zavoki et Henri Michaux vont être liés par des liens d'amitié très très forts.
Jusqu'à la fin.
Et Henri Michaux va vraiment être très attentif à l'évolution du travail de Zavoki, va notamment l'encourager à reprendre, à aller vers la peinture des cygnes ou à reprendre l'encre de Chine dans les années 70.
Oui. En effet, on peut très bien comprendre une grande affinité aussi dans l'œuvre de Michaux et de Zavoki. Il reste en France, il fait carrière, a commencé une carrière brillantissime et maintenant il est académicien à l'Académie des Beaux-Arts, donc depuis 2002. Plusieurs mariages, vous avez évoqué son premier mariage et donc, puis ensuite il rencontre May.
Et donc sa première épouse était musicienne, Lalanne. Ils se séparent à la fin des années 50 et en 1956, il fait un voyage à Hong Kong et là il rencontre May, qui était actrice à Hong Kong, hein, qui était une femme splendide. Il épouse aussitôt et malheureusement, May est de santé très fragile et elle mourra en 1972. Elle a eu du mal à s'adapter à la France. Hein. Elle ne maîtrisait pas vraiment bien le français, contrairement à Zhao Wuqi. À la fin de sa vie, May faisait de la sculpture et après sa mort, à la Galerie de France, on a exposé quelques sculptures de May. Et puis l'épouse actuelle de Zhao Wuqi est Françoise Marquet, qui était conservateur des musées de la ville de Paris.
Ah oui, voilà en gros le parcours de vie et artistique de Zhao Wuqi. Oui, il est revenu en Chine finalement récemment, enfin je crois en 80, dans les
non,
années 80.
Non, il est revenu la première fois en 1972, après la mort de sa femme, qui l'a beaucoup perturbé, parce que sa mère était malade. Et puis en 75, il est revenu encore voir sa famille, voilà.
Sa mère a survécu son père pendant quelques années.
Oui.
Et il donnait des cours là où il a été élève beaucoup d'années avant.
Il a donné des cours en 1985 à l'école des Beaux-Arts de Hangzhou où il fut élève finalement et il donnait des cours sur la peinture.
Oui. Si on en juge d'après son livre Autoportrait, il n'était pas vraiment heureux de retourner en Chine, non ?
Je crois que c'était un peu ambigu, un peu difficile.
Oui.
Et on peut dire qu'il a toujours eu des problèmes, des difficultés, disons, avec son identité chinoise, puisque dès le début, il voulait être considéré comme un peintre, et non pas comme un peintre chinois. Donc, il a, par exemple, abandonné l'encre de Chine qu'il pratiquait couramment
avant,
en Chine.
Oui.
Voilà, et il s'initie aux techniques de la gravure, comme les peintres occidentaux, finalement.
Oui.
Et c'est seulement à partir des années 70-80 qu'il renoue vraiment avec ses origines et que finalement, il y a un apaisement en lui.
Oui. C'est ça, où il réussit à intégrer la tradition chinoise dans son abstraction, parce qu'il est quand même un des plus illustres représentants de l'abstraction lyrique. Mais on verra ça donc dans une deuxième partie. Mais justement, à ce sujet, il serait intéressant d'entendre l'une et l'autre distinguer la peinture chinoise de l'art occidental. Ce serait intéressant pour nos auditeurs d'entendre votre avis là-dessus.
C'est vrai que Zhao Wuqi a été formé au rudiment de la peinture chinoise. En fait, dans l'école des Beaux-Arts qu'il a fréquenté, on enseignait aux élèves les rudiments de l'art chinois, la manière de construire un paysage par exemple, la calligraphie également. Et c'est vrai que très vite, Zhao Wuqi, fort de sa connaissance de l'art occidental, s'est rendu compte que l'art chinois était arrivé à une impasse, que finalement ce qu'on apprenait aux élèves, c'était uniquement à reproduire l'art du passé, mais plus à avancer, à faire évoluer cet art. Et c'est en se tournant vers l'art occidental qu'il a cherché justement à dépasser cette tradition. Mais c'est vrai que ses œuvres sont tout de même imprégnées dès le début en fait, de sa tradition orientale. On le voit notamment dans ses premiers paysages. Dans la tradition occidentale, on centre les paysages selon la perspective mise au point à la Renaissance. Et Zhao Wuqi n'adopte pas du tout ce procédé dans ses premiers paysages qu'il construit à la manière des paysages chinois dans lesquels finalement le spectateur est conduit par le peintre à cheminer dans le paysage. L'œuvre doit être un support de méditation, et c'est ce qu'on trouve dès ses premières œuvres.
Oui.
C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans toute son œuvre.
Oui, il n'y a pas un point central, mais on voyage à l'intérieur donc, du tableau.
Voilà, l'œuvre est un support de méditation, de réflexion.
Oui.
C'est vrai dans ses paysages, mais c'est vrai également dans ses œuvres abstraites.
Oui.
Et par la suite, lorsqu'il passe de la figuration à l'abstraction, il a toute une phase de peinture et de gravure dans lesquels il représente des signes qui peuvent rappeler également les signes que l'on trouve sur les bronzes antiques chinois, qui se rapprochent de l'écriture chinoise.
Et puis tout à l'heure, dans son parcours artistique, nous avons oublié d'évoquer Clé, qui est une autre rencontre extrêmement importante, puisque vous parlez de signes, donc il a été très inspiré par une découverte de Clé.
Effectivement, en 1951, Zhao Wuqi part en Suisse, à Berne, à l'occasion d'une de ses expositions de gravures, puisque ces gravures ont été appréciées très, très vite. Et là, il découvre la peinture de Paul Klee. Et c'est vraiment une révélation, comme il dit dans son autoportrait, puisqu'il découvre comment un peintre occidental intègre finalement les éléments scripturaux en éléments picturaux, comment finalement l'écriture devient peinture, ce que lui savait de toujours hein, dans sa culture chinoise avec la calligraphie. Et finalement, c'est la peinture de Paul Klee qui va l'encourager à petit à petit quitter la figuration, aller vers la peinture des signes, peinture de signes finalement sans référent, hein, aller petit à petit vers l'abstraction. Donc c'est une étape transitoire vraiment nécessaire pour l'œuvre de Zhao Wuqi.
Oui, pour arriver à l'abstraction finalement. Voilà. Oui. Mais je peux quand même encore lire quelques lignes au sujet de la peinture chinoise parce qu'il a été extrêmement dur avec une certaine peinture chinoise et il dit donc dans son autoportrait « À mes yeux, la peinture chinoise a cessé d'être créatrice dès le XVIe siècle. À partir de cette date, les peintres n'ont fait que recopier ce que la grande tradition Han et Song avaient inventé. L'art chinois est devenu un ensemble de recettes de fabrication, le beau étant confondu avec le savoir-faire, etc. » Donc extrêmement dur, radical. Alors que nous, on découvre aujourd'hui une nouvelle mode de peinture chinoise. Bon, mais ça, c'est un autre chapitre.
Oui, absolument.
Mais écoutez, je vous propose un petit intermède musical, après quoi nous allons donc parcourir les différentes salles de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France.
Vous écoutez Canal Académie.
Reprenons notre entretien en compagnie de Céline Chicha et Marie-Mincieux Chamonard, les deux commissaires de l'exposition à la Bibliothèque nationale de France de l'œuvre gravée de Zhao Wuqi. Je vous invite, mesdames, à commenter maintenant pour nos auditeurs le parcours de l'exposition. Il retrace en quatre salles les quatre grandes périodes dans l'évolution de l'artiste. Alors, une première salle correspond aux années d'apprentissage. On y voit des épreuves représentant encore des portraits, des natures mortes, des architectures, des marines, chose très rare d'ailleurs pour les Chinois, des paysages stylisés, peuplés d'animaux, même des couples nus, et puis les fameuses 8 lithographies inspirées par la lecture d'Henri Michaud dont vous avez parlé tout à l'heure, Madame Massieu-Chamonat. Et puis d'autres merveilles comme les funérailles, où on trouve d'ailleurs une huile et une lithographie. Voulez-vous nous guider peut-être à travers cette première salle, Madame Massieu-Chamonat ?
Donc la première salle correspond aux Zhao Wuqi figuratifs, donc une période qui fut assez brève finalement dans l'œuvre de Zhao Wuqi, puisque ça concerne les années 1948-1954. Zhao Wuqi s'essayait à différents genres de la figuration. Il y a à la fois des paysages qui ont encore un aspect très, très chinois hein, dans le traitement, avec l'absence de profondeur. Il y a des natures mortes, inspirées des natures mortes de Cézanne, des marines, des nus, donc genre inconnu en Chine. En fait, Zhao Wuqi s'inspire des différents voyages qu'il a pu faire dans ses premières années d'installation en France. En 1951-52, il fait un tour d'Europe et il voyage avec des carnets de croquis. Nous exposons un des carnets de croquis, notamment les vues de Venise. Voilà. Alors, il part.
Envoie des gondoles.
Envoie des gondoles très stylisées. Il travaillait sur ce motif. Et à côté de ce carnet, nous avons sélectionné une eau forte qui montre la reprise de ce motif des gondoliers qui deviennent de plus en plus schématisés au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'horizon. Donc, ce sont des carnets assez extraordinaires qui nous ont été prêtés par Zhao Wuqi, parce que c'était des carnets où on voit la trace de l'impatience qu'avait Zhao Wuqi à l'époque de tout peindre, de tout rendre en aquarelle, puisqu'il y a des traces de brûlures ou même carrément des trous sur les feuilles de ce carnet, puisque Zhao Wuqi voulait faire voulait sécher très rapidement l'aquarelle pour pouvoir croquer d'autres paysages.
Puis c'était un gros fumeur aussi.
Oui, c'était aussi également un gros fumeur.
Ce qu'on peut dire également sur les œuvres de cette première salle, donc ce sont ses toutes premières gravures qu'il a réalisées un an après son arrivée en France. Et ce sont des œuvres qui étaient réalisées à titre expérimental, tirées bien souvent un tout petit nombre d'exemplaires. Certaines sont des tirages uniques dont Zaouki et son épouse Françoise Marquet ont accepté de se défaire lors des deux donations dont nous avons pu bénéficier. Donc ce sont vraiment des œuvres d'une très grande rareté que nous avons la chance maintenant de posséder dans les collections de la Bibliothèque nationale. Oui. Et c'est vrai que c'est un aspect de l'œuvre de Zaouki qu'on ignore bien souvent. On connaît le Zaouki abstrait, on connaît assez mal le Zaouki figuratif. Ce qu'on peut dire également, c'est que lorsqu'il est arrivé en France, l'abstraction dominait la scène artistique. Et Zaouki ne s'est pas orienté tout de suite vers l'abstraction. Il est passé par un cheminement tout à fait personnel. Comme le soulignait Marie, il a beaucoup observé avant de créer lui-même. Il a effectué de nombreux voyages, beaucoup observé l'art moderne, mais également l'art du passé. Il raconte d'ailleurs sa fascination pour la peinture de Cimabue, par exemple. Et c'est fort de cette expérience, en fait, qu'il a commencé à créer des œuvres. Et c'est par un cheminement personnel qu'il est parvenu à l'abstraction que pratiquaient déjà beaucoup d'artistes qu'il fréquentait comme Soulages ou Hartung.
Donc on voit dans cette première salle vraiment toute une vie extrêmement dense parce que très expérimentale.
Oui, c'est très expérimental. Effectivement, on voit tous les genres auxquels il s'est essayé. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que la gravure l'a beaucoup intéressé dans ces années, la gravure et la lithographie, et que cette pratique a eu une influence sur sa peinture. Bien souvent, c'est le contraire. C'est la peinture qui a eu une influence sur l'estampe. Et là, dans cette première phase de son œuvre, c'est l'inverse. Notamment tous les effets de matière que permet la gravure par ces jeux de superposition de plaques, c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé, qui a nourrit également sa peinture. Dès ses premières années, il y a également un dialogue très fort entre sa peinture et ses dessins. Bien souvent, un même thème est traité dans ses différentes techniques.
Ben oui, justement, comme par exemple Funérailles que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous pouvez essayer de nous le décrire un petit peu ?
Funérailles, donc, c'est une toile qu'il peint dans ces années. En fait, le titre a été attribué postérieurement. L'œuvre est en réalité sans titre. Cela représente un paysage avec des arbres dénudés, sans souci de perspective centrée, avec dans le coin de la composition une carriole qui, en fait, permet au spectateur d'entrer dans la composition. Il invite à cheminer au sein de ce paysage.
Minuscule carriole, oui. Avec un tiré par un cheval.
Voilà, minuscule carriole, extrêmement ténue. Ce que l'art occidental va apporter à Zaouki dans ces années, c'est l'apport des couleurs, en fait, qu'il abordait assez peu dans ses œuvres chinoises et qu'il introduit dans son œuvre de manière relativement limitée, tout de même, dans ces années. Et cette peinture, Les Funérailles, va être reprise, en fait, dans une de ses lithographies qui va être rassemblée dans cet ouvrage 8 lectures par Henri Michaud de 8 lithographies de Zaouki.
Une autre merveille, oui. Oui, dans votre contribution, Marie-Mincieux Chabonnard, où vous parlez beaucoup donc des livres illustrés et la relation de Zaouki avec les différents poètes et écrivains, vous évoquez quelques lignes du poème d'Henri Michaud. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les lire ?
C'est un poème qui illustre, en quelque sorte, une lithographie de Zaouki qui représente des loups au clair de lune. Sur un fond rouge très éclatant, et Michaud a écrit ces lignes. Il y a dans cette tempête rouge, dans ce flux en tous sens de sang, dans ce recouvrement parfait de rouge sur toute chose, dans cet épandage mondial, il y a deux loups affrontés.
Magnifique, magnifique. Donc ça, c'était au sujet de l'estampe en collaboration, on peut dire, avec Henri Michaud. On passe alors dans la deuxième salle où Zaouki, lui, passe de la figuration à l'abstraction.
Oui, c'est véritablement une grande rupture dans l'œuvre de Zaouki. Ce passage de la figuration à l'abstraction a lieu en 1954, mais passe précédemment par un cheminement personnel de l'artiste qui, de plus en plus, va simplifier les formes jusqu'à les réduire à des signes. Et progressivement, conforté également par l'observation de l'œuvre de Paul Klee qu'il découvre à Berne en 1951, il va réaliser qu'il n'est pas nécessaire que les œuvres se rattachent à la représentation d'une quelconque réalité, mais que finalement seules les formes comptent. Et donc de la stylisation, il va passer aux signes, et des signes, il va passer à l'abstraction.
Ce sont des signes qui sont en fait à la fois influencés par la peinture de Paul Klee, mais aussi des signes qu'il pouvait trouver sur les stèles ou les bronzes antiques, hein, des inscriptions anciennes. Mais ce sont des signes imaginaires, une écriture imaginaire, illisible, comme dit Zavouki.
Mmh. Et puis il y a en général une espèce de cadre de couleur que vous appelez surface, si je ne m'abuse.
Oui.
Dans laquelle s'inscrit justement le langage des signes.
Oui, à partir de 56, les signes vont disparaître petit à petit,
oui.
Vont être envahis par la couleur.
Mmh. Hein,
c'est ce qu'on essaie de montrer en exposant une lithographie qui s'appelle « Ville engloutie », qui est une reprise en fait d'un tableau au même titre qui avait été peint en 1956. Alors cette lithographie est vraiment intéressante puisque contrairement à l'habitude pour la gravure où on imprime toujours du plus clair au plus foncé, là dans cette lithographie, Zavouki a imprimé les petits signes noirs en premier,
mmh.
Et c'est après coup qu'il a imprimé la couleur bleue qui fait l'encadrement de la gravure et qui, en quelque sorte, recouvre les signes.
Oui, et on voit très bien les différentes étapes, les différentes superpositions de couleurs dans votre très belle exposition. Oui.
Et c'est vrai que progressivement, la couleur va dominer et complètement exploser dans les années qui
60,
vont venir ensuite, voilà,
ouais.
Dans les années 60. Ce qui est caractéristique de...
Vous voulez dire quand il passe à l'abstraction lyrique?
Voilà, absolument.
Oui, oui. Dans la troisième salle. Donc,
oui. Et ce qui est caractéristique également de ces années, c'est l'abandon des titres. À partir de 1957, il ne donne plus de titres à ses œuvres, aussi bien ses peintures que ses estampes, pour ne plus du tout qu'elles se rattache à la représentation de la réalité.
Absolument, il voulait fuir absolument la notion de représentation d'un quelconque objet ou même du paysage.
Oui. Il dit lui-même qu'il y avait une certaine lassitude de sa part à tout le temps avoir à trouver un sujet et finalement il se rend compte dans ces années-là que cela n'est pas nécessaire et que seules les formes comptent, formes qui ne doivent plus se rattacher à une réalité extérieure mais beaucoup plus traduire une réalité intérieure de l'artiste.
Donc, il est complètement intégré dans le mouvement de l'abstraction lyrique qui a été créé par Georges Mathieu. Je me rappelle justement d'une autre très belle exposition au musée du Luxembourg qui exposait les plus grands artistes de ce mouvement de l'abstraction lyrique.
Oui.
Et nous avons d'ailleurs à Canal Academy, bien sûr, fait une émission à ce sujet. Mais Zavouki, donc, est peut-être pas un leader parce que c'était peut-être pas son tempérament, mais enfin, il était un personnage central dans ce mouvement.
Dans les années 60, Zavouki, finalement, devient un des tenants de l'abstraction lyrique et rejoint les peintres qu'il avait fréquentés dès son arrivée en France, hein, Hartung, Soulages. Il utilise des couleurs assez violentes, assez dramatiques, des compositions verticales très dynamiques que la gravure, la technique de la gravure permet de rendre de façon assez forte.
Oui, il est dit dans le catalogue qu'à partir des années 60, les signes perdent leur aspect gravé et évoluent en couleur ou en magma effervescent. Et c'est donc suite aussi à un voyage aux États-Unis où il découvre des Kooning et... Pollock,
absolument, il découvre les expressionnistes américains et c'est vrai que ces artistes vont avoir une influence sur son œuvre. C'est un artiste qui n'a d'ailleurs pas peur de revendiquer l'influence qu'ont pu avoir d'autres artistes sur sa propre évolution.
Il est tellement singulier que
qu'en même temps il ne singe pas effectivement ce qu'il voit à l'extérieur, mais il s'en imprègne pour le réinterpréter à sa manière. Et les artistes américains ont effectivement eu une influence sur son art. À partir de la découverte de l'expressionnisme américain, il va adopter une peinture et un dessin beaucoup plus gestuel, et puis également introduire des couleurs très vives dans ses œuvres, jouer beaucoup sur les contrastes de couleurs. C'est ce qu'on voit particulièrement dans la troisième salle de l'exposition.
Oui, alors, on voit aussi ce changement de style dans un des livres qu'il a illustré, comprenant un texte de André Malraux. Donc c'est aussi une rencontre très importante dans la vie de Zhao Wuqi. C'est un ouvrage qui s'appelle La tentation de l'Occident, donc un des premiers textes publiés d'André Malraux, qui est une espèce de dialogue entre un Français et un Chinois sous forme de lettres, une réflexion sur leurs différentes civilisations et les déclins de leur civilisation à l'âge machiniste. Donc Zhao Wuqi a été très intéressé par ce texte. Il a illustré de 10 lithographies en couleur, en 6 couleurs, donc des lithographies exubérantes dans lesquelles il a utilisé des couleurs qu'il n'avait jamais osé auparavant, comme des jaunes, citrons, des bleus outre-mer. Et ça, à la suite de son voyage aux États-Unis, parce qu'il a découvert tous ces peintres gestuels qu'il a pu rencontrer chez le galeriste Samuel Coates. Il a rencontré André Malraux à la sortie de l'ouvrage en 1962. André Malraux a été très intéressé par Zhao Wuqi. Il a évidemment une très grande connaissance de l'Asie. C'est André Malraux, ministre des Affaires culturelles à l'époque, qui va le naturaliser français en 1964.
Oui, donc il aura la nationalité française qu'il a évidemment gardée. Dans cette période, et je reprends une phrase de votre très très beau catalogue, je dois dire, il passe donc ainsi d'une peinture des sentiments à une peinture de l'espace.
Oui.
Dans cette période de l'abstraction lyrique, cette période qu'il n'a, je crois, jamais quittée. Même ultérieurement, quand il passe à l'encre de Chine, il reste toujours.
Oui, c'est vrai qu'il a évolué, mais on ne perçoit pas effectivement de rupture aussi nette dans la suite de son œuvre, comme la rupture qui a pu avoir lieu en 1951, entre le passage de la figuration à l'abstraction. Après, c'est beaucoup plus une évolution continue.
Oui, mais quand même, donc, dans la quatrième salle, il revient à l'encre de Chine. Enfin, quatrième salle qui correspond à la quatrième grande période dans son évolution. Et ça coïncide malheureusement à une période douloureuse.
Oui, il traverse une période assez difficile dans sa vie, puisque sa deuxième épouse, May, est très malade. Zhao Wuqi a du mal à se concentrer sur sa peinture. Et donc, pour se délasser, en quelque sorte, il reprend les encres de Chine, il redécouvre la technique des encres de Chine qu'il avait abandonnée en France, quand il est arrivé en France en 1948, puisque c'était pour lui trop rattaché à la tradition picturale de son pays. Et c'est avec les encouragements de l'écrivain Henri Michaux, son grand ami de toujours, qu'il reprend ses encres de Chine. Il pensait que ses encres de Chine étaient peut-être trop chinoises, que ça faisait partie des chinoiseries, comme il dit. Et en fait, Henri Michaux a été fasciné par ses encres de Chine et l'a vivement encouragé à pratiquer cet art parallèlement à la peinture et à la gravure. Et ça va être très bénéfique pour sa peinture comme pour sa gravure, puisque les compositions vont devenir beaucoup plus allégées et que les couleurs vont aussi être plus translucides, plus transparentes, plus lumineuses et vont jouer sur tous les dégradés, finalement.
Et c'est vrai qu'il y a dans la manière de composer une encre de Chine, selon l'art chinois, un rapport très subtil entre le plein et le vide. Voilà. Et c'est quelque chose qui va également avoir une incidence sur la manière dont il va composer ses toiles et ses estampes dans ces années, jusqu'à maintenant finalement. Oui. C'est quelque chose qu'on retrouve. Cela dit, il travaille l'encre de Chine en noir et blanc alors que ses estampes sont en couleur.
Au contraire, il y a une explosion de la couleur dans les années 80-90. Puisque les gravures de la fin résultent souvent de la superposition d'une dizaine de couleurs, ce qui est assez incroyable. Finalement, il réserve le noir et blanc aux livres, aux ouvrages de bibliophilie.
Alors parlons-en justement de ces fameux livres illustrés. Donc il a travaillé, on l'a dit tout à l'heure, avec René Char. Michaud, bien entendu.
Alors, il a réalisé des ouvrages de bibliophilie avec une trentaine d'écrivains différents. René Char, Michaud, mais aussi plus récemment avec Yves Bonnefoy, Bernard Noël ou François Cheng, son compatriote.
François Cheng, autre académicien, bien sûr. Et puis même, il a illustré un livre de Rimbaud.
Oui, alors c'est le seul poète non contemporain que Zhao Wuqi a illustré. Zhao Wuqi aime beaucoup la poésie de Rimbaud, le langage des couleurs, le code des couleurs, l'invention des couleurs par Rimbaud.
Et Zhao Wuqi, il est tellement poète lui-même.
Voilà, et Zhao Wuqi de toute façon a toujours porté une attention particulière aux couleurs dans les textes. Souvent, il illustre des textes qui sont très colorés.
Dans le sens figuratif et dans le sens premier.
Oui.
Oui. Et puis, il a même illustré un recueil de poèmes de Dominique de Villepin.
Oui, c'est un des derniers ouvrages qu'ils ont réalisé ensemble. Dominique de Villepin écrit des poèmes depuis toujours. C'est un grand ami de Zavoki, puisque Zavoki dessine son ex-libris. C'est un ouvrage qui s'appelle « Là-bas », qui comprend 13 poèmes de Dominique de Villepin. Zavoki a réalisé des encres de Chine à la suite de la lecture de ses poèmes. Ces encres de Chine ont été reproduites en sérigraphie. Et là, nous exposons un exemplaire de tête de cet ouvrage comprenant un monotype. C'est-à-dire que par-dessus la sérigraphie, Zavoki a ajouté une encre rouge assez extraordinaire.
Mmh. Oui, parce que Zavoki ne pratique plus l'estampe depuis les années 2000. C'est vrai que ce sont des techniques assez contraignantes physiquement et que compte tenu de son âge, il ne pratique plus l'estampe. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il confie des aquarelles ou des encres de Chine à des artisans qui les reproduisent en héliogravure ou en sérigraphie, comme c'est le cas pour ce dernier ouvrage.
Oui. Pour finir avec le chapitre des livres illustrés, il y en a un qui m'a frappé, qui est en triptyque en quelque sorte.
Alors, c'est un ouvrage qui s'appelle « Élégie pour Jean-Marie » de Saint-Gore.
Ah oui.
Qui est
autre académicien, je le souligne.
Qui est assez particulier, finalement, dans l'œuvre de Zavoki, puisque les ouvrages de bibliophilie de Zavoki sont assez classiques, de présentation assez classique. La gravure est souvent à droite, le texte typographié à gauche. Pour cet ouvrage-là, il a choisi la forme du triptyque. Donc, le texte imprimé se trouve au milieu du livre et la page de texte est encadrée de deux lithographies. Il a réalisé donc deux séries de lithographies pour cette élégie pour Jean-Marie, qui est un poignant poème sur un soldat français qui est mort au Sénégal. Donc une série de lithographies en rouge, comme le sang du soldat qui a coulé, et une série de lithographies en ocre, comme la terre d'Afrique. Donc voilà encore un exemple magnifique d'illustration très proche du texte de Zavoki.
Oui. Je voudrais encore faire une ou deux citations qui servent d'aphorisme dans l'exposition. Je commence avec une première. « Mon sujet d'inspiration était ma réalité intérieure, exprimée au gré de mon plaisir ou de mon déplaisir par le maniement de toutes les couleurs. » Et ailleurs, il est question de « tumulte des couleurs et l'enchevêtrement des traces fortement appuyées comme barbouillées ». L'encre et le papier me donnent beaucoup de lucidité pour atteindre le silence. Et une que j'aime particulièrement, c'est légèreté de l'espace, fusion des couleurs, turbulence des formes qui se disputent la place du vide, masse qui s'affronte comme mes angoisses et mes peurs. Le silence du blanc, la sérénité du bleu, le désespoir du violet, de l'orange. Voilà, Zavoki dans le texte.
C'est vrai que c'est un très grand coloriste, aussi bien dans sa peinture que dans ses estampes, et c'est ce qui transparaît véritablement à la vision de cette exposition.
Pour terminer, pouvez-vous peut-être essayer de traduire la spécificité de Zavoki à un non-voyant, Céline Chicha ou Marie-Mathieu Chamonard?
Résumer Zavoki à un peintre abstrait, c'est trop limitatif,
oui,
il me semble.
Même lyrique,
Je pense qu'il a véritablement dépassé la frontière entre figuration et abstraction. C'est un artiste, justement, il dit dans son autobiographie que son objectif était de traduire le souffle du vent, l'éclosion des couleurs, et c'est quelque chose auquel finalement il est tout à fait parvenu. Et ses œuvres sont très méditatives. On se rend compte à la lecture du livre d'or de l'exposition, par exemple, à quel point les visiteurs de l'exposition sont émus à la vision de ces œuvres. Ce sont des œuvres qui parlent beaucoup à l'émotion, qui donnent lieu à une méditation véritablement personnelle de la part du public. Et c'est véritablement des œuvres qui sont difficilement traduisibles par des mots. D'ailleurs, Zavoki, lorsqu'il parle de son travail, reste dans l'anecdote, mais finalement, ce sont des œuvres qui ne supposent pas nécessairement une explication comme d'autres œuvres. Ce sont des planches devant lesquelles on peut tout à fait rentrer, méditer, voir peut-être certaines choses, des paysages, des paysages intérieurs peut-être.
Imaginaire,
voilà. Le fait qu'elles n'ont pas de titre ne nous guide pas vers quelque chose. On est tout à fait libre d'y voir ce que l'on veut finalement. Et c'est ça la grande force des œuvres de Zavoki, qu'elles soient des peintures ou des estampes.
Et puis, je crois qu'elles ont aussi un grand pouvoir poétique.
Madame Mathieu Chamonard.
Elles ont aussi un grand pouvoir poétique. C'est
absolument,
ce que a noté un écrivain, Philippe Jacotet, qui a travaillé avec Zavouki. Et il le dit de façon très jolie, puisqu'il dit que ses encres de Chine, ses gravures, essaient de se promener entre le cœur et le monde.
Magnifique, magnifique. Mais pour revenir à ma question, comment éventuellement le faire voir à un non-voyant, on trouve souvent chez Zavouki de grandes surfaces comme ça, un peu délavées, il est vrai. Et souvent au centre, il y a une sorte de, une accumulation, une concentration de petits grattages. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les turbulences ? Souvent, je trouve le mot turbulence dans la description de ces estampes.
Le terme de turbulence, il me semble, s'applique bien aux œuvres des années 60, peut-être moins aux œuvres des années 70, qui sont, je trouve, beaucoup plus sereines, où on trouve des compositions souvent asymétriques, avec une place importante laissée au vide dans les compositions, qui permet au spectateur de s'échapper, finalement, d'être guidé dans la composition, un peu comme dans la peinture chinoise, mais finalement de s'en échapper.
Vraiment, je vous remercie. Merci infiniment, Madame Céline Chicha, et vous, Madame Marie-Mathieu Chamonard. Merci d'être venue à Canal Academy nous livrer votre regard sur les estampes et les livres illustrés de Zavouki, l'un donc de nos plus illustres académiciens des beaux-arts. Grâce à vous, tous nos auditeurs, internautes à travers le monde pourront maintenant mieux apprécier encore les caractéristiques et les subtiles beautés de son œuvre gravée. Je voudrais conclure en signalant la revue Les Nouvelles de l'Estampe du Comité national de la gravure française. C'est une revue très peu connue, donc ça vaut la peine de la signaler à cet endroit. Elle est publiée par le département des estampes de la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit de la seule publication de langue française à défendre l'estampe sous toutes ses formes et à renseigner sur les manifestations, toutes les manifestations consacrées à cet art. Merci mesdames et peut-être à une très prochaine autre fois sur Canal Academy.
Merci beaucoup.
Merci.